RMC, Brigitte Lahaie, Lahaie, l'amour et vous.
C'est Philippe Bruno qui nous tient compagnie aujourd'hui à l'occasion de la sortie de cet ouvrage sur le sexe et l'évolution de notre sexualité aux éditions Odile Jacob. Alors il y a une chose aussi qu'on découvre dans votre ouvrage, c'est que pratiquement tous les mammifères et notamment tous les singes ont un os pénien et ça pourrait peut-être quand même se demander pourquoi l'homme n'a pas un os pénien. Ça arrangerait quand même bien certains d'entre eux.
C'est le seul mammifère dont il y a un singe araignée qui n'en a pas non plus, mais c'est extrêmement rare. Il y en a chez la baleine, il y en a chez l'éléphant, il y en a un peu partout. L'os pénien, à quoi ça sert? C'est très curieux. Et puis il y avait Brigitte, extraordinaire et très très peu connue. Il y avait un os clitoridien également. Il y a un petit os qui est un atavisme de l'os pénien chez les femelles. Cet os pénien, il sert à une chose très précise. Et je crois que c'est là on va comprendre la sexualité humaine sur cet exemple. Il est attaché au symphyse pubien. Alors c'est pas très compliqué à comprendre. Tout le monde a vu un squelette d'humain. On a le bassin dans lequel vient s'installer le bébé pendant la grossesse. Eh bien, il y a les deux branches en avant du bassin, ce qu'on appelle le pubis, la symphyse pubienne. Eh bien, sur ces endroits-là s'accroche avec deux petites facettes articulaires l'os pénien. C'est-à-dire qu'il est semi-rigide. Il tient au bassin. Ce qui fait que le pénis n'a pas besoin ni d'être long, ni d'être dirigé, puisque l'os pénien permet une pénétration. Si vous avez vu n'importe quel coït animal, est-ce qu'ils y mettent la main?
Non, ils n'en ont pas.
Ah oui, mais attendez. Et c'est ça qu'on ne s'est jamais posé comme question. Ils ne mettent pas la main parce qu'il y a un os pénien.
D'accord.
Et en fait.
Donc c'était un choix. On a des mains et
alors,
donc pas d'os pénien.
C'est un choix. On ne sait pas très bien comment ça s'est fait. On a donné quelques exemples, quelques hypothèses. C'est-à-dire que l'os a disparu, alors qu'il y en a chez chimpanzés, gorilles, orang-outans, chez tous nos cousins, il y a un os pénien. Eh bien, il a disparu au cours de l'évolution et dans le même temps, l'homme a acquis le plus grand pénis, non pas des mammifères, mais enfin relativement. Marqué, par exemple,
heureusement, parce que s'il y avait un os avec ce grand pénis et que cet os se casse, ça pourrait faire très mal.
Moi, je crois qu'il est grand et il est extrêmement dur, notre pénis en érection.
Enfin, de temps en temps, hein,
pour
pas toujours.
Justement parce qu'il n'y a plus d'os. L'érection d'un gorille, vous savez, un gorille de 2,20 m de haut a un petit sexe de 4 cm en érection, qui tient par ce petit os et qui lui permet de pénétrer. Mais il faut dire en face que le vagin est tout petit. Là, pourquoi le pénis humain est-il si grand et n'a-t-il pas d'os? Plusieurs explications à cela, et là avec Pascal, puisque j'ai co-écrit
toute
ce
la
livre,
première partie de cet ouvrage,
j'ai co-écrit avec Pascal Pic, on a donné tous les arguments. Pascal Pic, qui est paléanthropologue au Collège de France, on a trouvé les arguments, notamment certainement que cela vient du redressement de la stature. Regardez, Lucie est australopithèque, c'est une sorte de chimpanzé qui s'est mis droit.
Rappelons aux auditeurs que Lucie, finalement, c'est le plus ancien.
C'est presque complet qu'on ait pu trouver, voilà. Qui a été découvert par Johansson et Yves Coppens.
Et elle a vécu il y a combien de...
Elle a vécu, alors Lucie, c'est du 4-5 millions d'années, hein, je ne saurais pas dire exactement. Mais Lucie avait déjà une stature bipède, c'est-à-dire verticale. À ce moment-là, le vagin et les organes génitaux ont basculé vers l'avant et en faisant cette opération, le vagin s'est allongé. C'est-à-dire que le vestibule du vagin, l'entrée du vagin est devenue beaucoup plus longue et le vagin des femelles humaines est extrêmement long par rapport au vagin des chimpanzés. Ça, aucun homme ne le sait parce qu'en général, on copule pas avec les chimpanzés. Eh bien, certainement qu'il y a eu une coévolution, c'est-à-dire que le pénis a dû s'allonger. Et la deuxième chose, moi, je crois que c'est un autre facteur d'évolution et d'allongement. Eh bien, c'est que comme il n'a plus d'os qui le dirige, c'est-à-dire qu'il est extrêmement dur, mais il n'a pas de direction, alors que le pénis des mammifères est directible, l'homme a dû y mettre la main, et le pénis humain, il a au moins la taille de la main, c'est-à-dire pour être pris, pour être dirigé, pour être conduit vers le canal féminin qui est le vagin.
Alors merci de ces précisions. Vos questions, bien sûr, vous continuez, c'est au 32-16. N'hésitez pas également, si vous avez envie de jouer avec nous à ce jeu RMC Club Marmara, 32-16, touche 6, s'il vous reste encore un tout petit peu, une poignée de minutes pour vous inscrire. Et dans quelques instants, trois d'entre vous seront tirés au sort et pourront choisir un transat. Et peut-être qu'ils partiront en vacances.
En voyage.
Voilà, en voyage. Steven, pour l'instant, est avec nous. Steven, bonjour.
Bonjour, Edith. Bonjour à votre invité.
Bonjour, Steven.
Vous avez 35 ans et vous êtes aussi dans une impasse affective.
Voilà, c'est ça. Donc, je connais ma femme depuis 12 ans. Nous sommes mariés depuis 5 ans. Et là, depuis 5 mois, on va dire que notre situation a évolué dans un sens, on va dire, différent. Dans le sens où ma femme n'exprime plus de désir vis-à-vis de moi. Donc, bien évidemment, moi, j'en ai. Néanmoins, il y a quand même une affection de l'un par rapport à l'autre, d'elle vis-à-vis de moi. Mais ça crée quand même, je dirais, un déséquilibre par rapport à son souhait, à ses désirs qui sont beaucoup plus latents que les miens. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de conflit. Nous ne sommes pas dans. On ne se déchire pas. Nous parlons, nous discutons. Néanmoins, voilà, c'est son affection vis-à-vis de moi qui est déséquilibrée par rapport à mon désir vis-à-vis d'elle.
Alors, donc, c'est-à-dire qu'elle, elle est plus dans l'affect et vous êtes peut-être plus dans le lien charnel dont parle Philippe Bruneau d'ailleurs, hein, dans votre ouvrage. Vous expliquez aussi, là on est sur la sexualité humaine évidemment, les liens du couple. Et c'est là tout le souci, c'est qu'au fond, vous avez un attachement fort l'un pour l'autre. Vous avez maintenu un désir, une envie de faire l'amour. Elle, c'est plus une priorité.
C'est plus une priorité. Donc, elle a engagé aussi une thérapie pour mieux se comprendre, pour essayer de. Bon, parce qu'elle est aussi un petit peu dans la transgénéalogie. Donc, elle dit qu'elle supporte un certain nombre de choses. Donc, bon, ça, c'est son histoire et elle le gère de son côté. Néanmoins, quoi, il y a ce déséquilibre à l'heure d'aujourd'hui. Et cette affection qu'elle m'attache quand elle rentre le soir. De son travail, puis qu'elle vient dans mes bras. Bon, quand on a des relations charnelles avec sa femme, on peut apporter de l'affection régulièrement, mais quand il n'y a plus de relations charnelles et c'est que votre femme ne tient que de l'affection vis-à-vis de vous, on a quand même le désir qui est ancré à l'intérieur de soi. Et donc, bon, voilà. Donc, ma question,
vous sentez frustré, en fait.
Comportement, je dois... Pardon ?
Vous vous sentez frustré, en fait.
Ben oui, il y a la frustration. Et puis maintenant, je sais pas si je dois créer le détachement, parce que j'ai envie de me détacher.
Vous êtes en train de vous vous sentez frustré, vous souffrez, et ça risque à un moment donné, en effet, de poser un vrai problème de couple.
Oui, c'est ça, un problème de couple. Nous en avons discuté, on en a encore discuté dernièrement. On sait que de toute façon, cette évolution va que dans le sens d'une séparation future et d'un divorce. Mais aujourd'hui, on ne sait pas, quoi. Il y a toujours cette ambivalence de vouloir, de ne pas vouloir.
Ben moi, je
mais
crois
il n'y a pas le désir de ma femme vis-à-vis de moi, donc ça ne peut pas arranger les choses de toute manière.
Mais Steven, moi j'entends ce que vous dites et je vois des couples tous les jours et regardez, on a quand même des différences d'appréciation et de vécu, même du sentiment amoureux, les hommes et les femmes. C'est vrai que les hommes, moi je dirais, nous sommes beaucoup plus binaires et souvent très, très liés au désir. Il n'y a pas de doute, j'aime ma femme ou je ne l'aime plus, mais c'est assez binaire. Et puis, il y a, au niveau du sentiment affectif, des choses très, comment dire, difficiles à percevoir pour nous. C'est-à-dire qu'ils vont être, par exemple, une femme va dire, tiens, je me sens moins amoureuse. C'est vrai que j'ai pas de désir. La relation a évolué et il va y avoir tout un tas d'intermédiaires. Et quand vous disiez tout à l'heure que j'aimerais savoir quel comportement adopter, moi, je dirais, il faut déjà pas penser à votre comportement à vous, ce qui vous intéresserait, mais penser, par exemple, où en est-elle ? Eh bien, elle s'interroge sur le sentiment amoureux. Elle s'interroge sur la nature du sentiment qui vous lie et la façon dont le couple a évolué. Et moi, je dirais, il n'y a qu'une chose à faire, c'est d'être plutôt du côté de la séduction et de la tendresse, certainement pas du côté du sexe, parce que si la séduction et la tendresse l'intéressent et trouvent un écho en elle, il va se passer quelque chose qui amènera quelque chose d'intime, si c'est le cas. Mais si vous en êtes à demander de la sexualité, d'ailleurs c'est ce que vous ne faites pas, puisque vous le dites, vous essayez de ne pas faire pression, moi je crois qu'il faudrait que vous essayiez d'aller du côté de la séduction. peut-être y est-elle encore accessible. Si elle n'y est pas accessible, c'est que peut-être le couple s'est éloigné. Voilà,
mais
moi
voilà,
je...
Mais c'est exactement ça. Mais bon, sur le côté de la séduction, bien évidemment, j'essaie de faire attention, j'essaie d'attirer son attention, son œil. Tout à ce matin, ça a encore fonctionné. Mais disons qu'après en avoir discuté et rediscuté, on s'est dit des choses qui n'étaient pas forcément agréables à entendre. Le tout, c'est de savoir, c'est que moi, à l'heure d'aujourd'hui, cette affection qu'elle me témoigne en se lotissant dans mes bras, en caressant le torse, voilà, moi, j'ai plus envie de le donner parce que ça sert à quoi?
Ah oui, ça c'est compliqué. C'est compliqué aussi si elle a des gestes intimes comme ça.
C'est toute la difficulté, toute cette ambiguïté. Donc,
mais Steven, puisque.
Non, j'ai pas envie.
Non, mais Steven, puisque vous arrivez visiblement à communiquer, est-ce que vous avez l'un et l'autre envie de rester ensemble?
Je ne sais plus.
Bon, parce que je crois que la réponse, elle est là. Si déjà vous êtes
on
en train
pas,
de.
On ne sait pas.
Oui, mais j'ai l'impression que déjà, vous, elle, je ne sais pas, hein, puisque c'est vous qui êtes en train de nous parler, vous déjà, de toute façon, vous avez l'envie de vivre d'autres choses, de découvrir d'autres corps. Donc, quelque part, vous freinez des cas de fer. Si on vous disait il faut faire telle chose ou telle autre chose, je ne suis pas sûre que vous suiveriez nos conseils.
Non, c'est pas ça. Oui et non. Oui, parce que par défaut... Mais non, parce que, bien évidemment, c'est une femme que je connais parfaitement, je connais ses qualités, je connais ses défauts, et puis bien évidemment, je suis amoureux de ma femme. Donc, c'est oui et non, c'est ambivalent. Mais voilà, c'est vraiment une question d'attitude, je ne sais pas, parce que je n'ai pas envie de prendre les choses de manière frontale, puisqu'on ne se déchire pas, donc, mais c'est de savoir si je dois rester dans l'affectif, d'être vis-à-vis de moi. Bon, on est marié, on a une maison.
Et est-ce que vous avez essayé
chambre à part ou pas? Est-ce que je dois...
Mais pourquoi, vous savez, Steven, pourquoi pas faire chambre à part et se retrouver pour des vrais moments d'intimité? Moi, je conseille souvent le ludique dans ces moments où la sexualité, quelque part, elle a été éteinte, en tout cas du côté de votre femme, par peut-être justement trop de tendresse et trop d'affection.
Ouais, parce qu'elle, elle semble vivre bien avec ça. Bon, si je fais pas le bijou qu'il faut, elle me dit, oh, bijou quand même. Bon.
Parce que elle, visiblement,
vous
voyez, Steven, quand la femme n'a même plus de geste de tendresse, on peut s'inquiéter sur le futur du couple. Mais là, visiblement, elle a beaucoup d'affection et beaucoup de tendresse pour vous. Elle a juste plus 13 ans. Elle a juste plus de désir. Mais ça ne veut pas dire que si elle faisait l'amour avec vous, elle n'aurait plus de plaisir. Donc quelque part, si elle tient à votre couple, si vous y tenez, peut-être qu'il y a un moment donné, un moment où il faut se dire, tiens, faisons l'amour de temps en temps et entretenons-nous.
Oui, non, mais ça, j'en ai bien évidemment parlé et je l'ai évoqué. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce que c'est peut-être de devoir faire un effort, changer son comportement. Ça,
mais Steven, je crois qu'il faudrait arrêter de penser que la vie est faite naturellement sans effort.
Ah non, mais attendez, mais moi, vous parlez, vous prêchez un convaincu.
Non, mais vous, c'est pas faire un effort hein, que de faire l'amour avec elle, attention.
Non, mais c'est elle vis-à-vis de moi, puisque c'est pas quelque chose qui est naturel, puisqu'il n'y a pas cette flamme, cette étincelle. C'est ça qu'elle attendrait aussi, puisque bien évidemment...
Oui, mais je crois, et Philippe Breneau peut en témoigner également, je crois qu'il faut aussi qu'on comprenne que pour la femme, à un moment donné, le désir, ben, il est assez éloigné, et si on se force pas un petit peu à l'entretenir, il peut disparaître totalement.
Et puis, elle est quand même dans une phase peut-être particulière, puisque vous dites qu'elle fait une thérapie depuis quelque temps. Est-ce que ça ne correspond pas aussi à son interrogation, c'est-à-dire que elle est en train de s'interroger sur la nature des liens, du lien dans lequel vous êtes. Moi, il y a une chose aussi, Brigitte, proposer de trouver des moments intimes qui soient forts, enfin qui soient entre vous. Moi, je crois que l'éloignement des conditions habituelles de vie, c'est-à-dire par exemple aller passer vraiment un week-end, mais il n'y a que vous deux, vous passez deux ou trois jours, et que ça se passe pas uniquement, qu'elle sente pas uniquement, vous allez lui faire une pression de désir, et à ce moment-là, vous allez voir de quelle façon il a existe quelque chose en vous, vous pourrez redémarrer et qu'elle avance un petit peu sur son désir. Parce que vous dites que vous êtes ambivalent, mais elle doit l'être. Si vous êtes tous les deux dans l'expectative, ça sera un peu compliqué.
Mais c'est le problème des couples qui finalement ne s'entendent pas si mal que ça. Visiblement, oui. C'est le cas. Steven, vous vous entendez bien, mais il y a quelque chose qui manque, il y a un pilier manquant dans votre couple.
Et puis, elle est aussi,
ça se discute. Hein.
Et puis elle est aussi dans cette phase d'interrogation, parce que c'est quand même très fréquent que dans une psychothérapie, pourquoi on fait une psychothérapie ? Pour réfléchir sur soi. Et c'est dans le même temps que vous dites, tiens, elle a moins de désir. Ben oui, parce qu'elle est en train de s'interroger. C'est peut-être une phase intermédiaire. C'est pas toujours facile.
En tout cas, les sexothérapeutes sont là aussi pour ces questions de couple qui sont...
C'est-à-dire que si elle s'interroge sur elle-même, et si vraiment vous trouvez que tous les deux, que c'est dommage, moi je pose souvent la question comme ça, est-ce que... Je ne sais pas si vous avez des enfants, Steven.
Je crois que...
Je n'ai pas entendu. Elle est peut-être pas là.
Je ne sais pas, on ne lui a pas posé la question, mais je dirais que, en tout cas, on sent un couple qui a quand même envie de rester ensemble. Oui, Steven, vous avez des enfants ?
Oui, on a une petite fille de 7 ans.
Parce que vous savez, moi je pose souvent la question, si vous n'aviez pas d'enfant, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui ? Alors ne répondez pas à l'antenne, hein, mais posez-vous la question chacun. À ce moment-là, très vite, on réfléchit peut-être un petit peu différemment. Posez-vous là, tous les deux, et essayez de voir si vraiment vous avez envie de rester ensemble. Au besoin, parallèlement au fait qu'elle voit quelqu'un pour s'interroger sur elle-même, vous pouvez voir un conseiller conjugal ou un thérapeute de couple à quelques reprises. Il ne faut pas que ce soit un psychodrame, mais quelquefois ça peut donner une impulsion à votre couple.
Merci Steven, merci à vous en tout cas.
La plage, RMC Club Marmara.
Eh bien, nous avons 3 auditeurs qui ont été tirés au sort, qui vont choisir un transat sur cette magnifique plage RMC Club Marmara. Alors, il y a déjà 3 transats qui ont été découverts. Louise Fernandez, Jean-Jacques Bourdin, Christian Pessé, la coule douce au soleil. Mais il en reste donc 17 autres. Et parmi ces 17, il y en a un qui vous permet de partir en voyage. Pascal est avec nous. C'est vous qui allez tirer le premier. Pascal, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Quel transat choisissez-vous ?
Comment ça, quel transat ?
Vous choisissez un numéro de 1 à 20, et voilà, si vous préférez, parce que visiblement... Vous choisissez le 15. Très bien. Eh bien, vous vous retrouvez sur les genoux de François Sorel, et puis vous écouterez RMC un peu plus et vous comprendrez mieux le principe du jeu. Merci Pascal. En tout cas, vous repartez avec une serviette de plage et un t-shirt de La Haye l'amour. Et vous le savez, toutes les personnes tirées au sort repartent pas les mains vides. Sylvain, bonjour.
Oui, bonjour.
Quel numéro avez-vous choisi ? Ce sera plus simple.
Le numéro 12.
Numéro 12. Eh bien, vous vous retrouvez avec Jean Essegué. Donc, c'est pareil, hein, un superbe drap de bain d'RMC et un t-shirt La Haye l'amour et vous pour que vous puissiez profiter vous aussi de vos vacances.
Et d'accord.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Jean-Luc, bonjour.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité.
Bonjour Jean-Luc.
Bonjour à vous Jean-Luc. Vous choisissez quel numéro de transat ?
Moi, le numéro de transat, j'avais choisi le numéro 20.
Le numéro 20. Eh bien, vous retrouvez Alain Marchal.
Oh, évidemment.
Évidemment. Remarquez, il est sympathique. Hein.
Oui, tout à fait.
Et, en tout cas, vous repartez avec un drap de bain et un t-shirt de La Haye l'amour et vous, Jean-Luc. Et puis surtout, pourquoi pas, Jean-Luc, vous aussi, vous avez le droit de retenter votre chance dans l'émission de Louis, puisque vous pourrez continuer à jouer jusqu'à ce que ce transat soit découvert. Merci à tous.
Merci beaucoup.
On continue avec notre sexy news du jour. Anne Chapironiel est avec nous. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Brigitte.
Aux éditions Marabout, Le piège du célibat. C'est un ouvrage qui permet à ceux qui n'arrivent décidément pas à refaire leur vie ou à trouver une compagne, de comprendre peut-être qu'est-ce qui bloque.
En tout cas, de faire le point, parce que l'auteur qui est André G. Marchal est conseiller conjugal depuis plus de 20 ans. Mmh. Et donc, c'est sur la base de tous ces témoignages, de toutes ces personnes qui sont arrivées dans son cabinet, qu'il a tiré les enseignements de ce livre. Et c'est vrai que quand on voit les chiffres, il y a quand même un taux de célibataires, que ce soit les hommes ou les femmes, du reste, puisque les hommes, en 20 ans, sont passés de 29 à 39%.
Oui, il y a de plus en plus de
22 à 32%.
Il y a de plus en plus de célibataires, et je trouve dans son ouvrage, il montre bien à quel point ce nombre qui augmente de célibataires, ça montre le côté vraiment négatif de notre individualisme.
Oui, mais ça montre aussi, en tout cas, il y a vraiment toute une partie de son livre dans laquelle il parle de ça. Il montre combien, quand on est célibataire, en fait, on met tellement de critères pour retrouver l'âme sœur que ça devient quasiment impossible. Donc plus on avance en âge, plus on est difficile, plus les critères augmentent.
Et pourtant on devrait être moins difficile en avançant en âge.
En tout cas on devrait être un peu plus objectif parce que l'homme parfait ou la femme parfaite ça n'existe pas.
Oui, mais derrière ça, il y a aussi toutes nos blessures, tous nos échecs qui font qu'on n'a peut-être pas trop envie de repartir.
Ben voilà, il y a un chapitre dans lequel justement il aborde ces blessures de Lévi qui remontent parfois à l'enfance, à une relation qu'on a pu avoir même au sein de sa famille, les rapports avec un père, avec une mère, sa place dans la fratrie, ses relations professionnelles, enfin tous ces éléments qui font qu'on va être plus ou moins enclin à rechercher un conjoint, ou en tout cas retarder l'échéance du choix.
Oui, oui, vous en prie, Philippe.
Non, c'est vrai. Alors, à la fois, ce livre m'intéressera. Il faudra que je regarde ça. Mais à la fois, c'est un des phénomènes importants. Mais les chiffres dont vous parlez sont pas tout à fait justes. C'est pas tout à fait ça. Ces chiffres, je les connais. Ils viennent des enquêtes INED ou des évaluations nationales. C'est-à-dire, c'est l'évaluation plutôt des gens qui vivent seuls. Ça ne veut pas dire qu'ils soient célibataires. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ne sont pas en couple. Et c'est vrai que la part augmente, ils peuvent très bien être dans une relation, mais par contre le phénomène de célibataire, et c'est ce dont ils parlent, est quelque chose qui pose un gros problème, parce que dans des villes comme Paris par exemple, les possibilités de rencontre ne sont pas tellement importantes, de possibilités de rencontre avec un lien à long terme, c'est pas très facile, les gens qui sont dans une activité professionnelle, moi très souvent je fais évaluer aux gens qui viennent me voir et qui ont ces difficultés de rencontre, je leur demande, tiens par exemple, dans l'année dernière, combien avez-vous rencontré? Alors si c'est un homme, de femme ou inversement, s'ils sont hétéros bien sûr, et dans le milieu du travail et autres, et ils me disent et avec qui vous auriez pu sortir ou... Eh bien, c'est toujours moins de 10. Quelquefois, non, la personne va venir.
Ok, un seul
4,
suffit.
5. Oui, mais la plupart du temps, et cette personne n'a pas été rencontrée.
En tout cas, c'est un ouvrage qui est très basique.
Je veux juste ajouter quelque chose concernant le nombre de célibataires. C'est qu'en fait, l'augmentation est principalement due, en tout cas d'après l'auteur de ce livre, au fait qu'on part plus tard de chez ses parents,
oui,
qu'on soit un homme ou une femme. Et que donc, le principe des études supérieures fait aussi que, quelque part, le temps qu'on n'a pas trouvé un travail et qu'on peut subvenir à ses besoins, on reste évidemment, donc on est célibataire chez ses parents. Et il est assez courant de voir des garçons et des filles de 28 ans encore chez leurs parents pour des raisons principalement économiques. Mais ils sont quand même comptabilisés en tant que célibataires.
Oui.
En tout cas, c'est un ouvrage avec plein de conseils, très pratiques, que je peux vous conseiller si vous avez du mal justement à sortir du célibat.
C'est très positif. C'est, ça permet
comme tous ces ouvrages d'Andrew Marshall d'ailleurs. Hein, ils sont toujours très positifs. C'est aux éditions Marabout, Le piège du célibat. Merci Anne Chapironi, à la bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Au revoir. On se retrouve dans un instant avec notre alphabet amoureux et le mot baculum que Philippe Bruno nous expliquera dans un instant.
RMC, Brigitte Lahaie, l'amour et vous.
Elle panique à l'idée d'en faire trop, de vieillir prématurément.
Eh bien, notre alphabet amoureux, Philippe Bruno, vous avez choisi le mot baculum. Je ne suis pas sûre que beaucoup d'auditeurs sachent de quoi il s'agit.
Et Brigitte, comment connaissez-vous le baculum?
Alors, je sais que ça a un rapport avec le sexe masculin.
Ouais.
Et que c'est quelque chose qui sert à l'érection, hein, je crois.
Ah ouais, mais alors je crois que vous savez ce qu'est le baculum.
Mais je vous laisse le décrire.
Mais moi je pensais vous l'apprendre, alors c'est formidable, bah Brigitte,
oui,
c'est
quand,
tout.
Quand même.
Non, je voudrais dire aux éditeurs quand même que Brigitte, c'est beaucoup de choses. Et très peu, c'est pas
mais
connu.
Mais ils le savent.
Ils le savent, mais oui, bien sûr. Et le baculum, c'est le nom savant de l'os pénien dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire cette espèce de petite chose que nous n'avons pas, puisqu'à la place, on a un très grand pénis. Eh bien, le baculum, effectivement, c'est le nom de cet os qui, chez tous les mammifères, à part l'homme, eh bien, permet que le pénis d'abord soit rigide, parce que, par exemple, chez un grand gorille, ce pénis tient par un petit os pénien et la flatulence, c'est-à-dire le gonflage de la verge, n'est pas important comme la nôtre. C'est-à-dire, nous, elle est devenue extrêmement dure.
Il y a un seul corps caverneux, d'ailleurs, il n'y en a pas...
Non, il y a deux corps caverneux. Il y a deux corps caverneux,
oui,
et je vais vous dire
pas
pourquoi. Non, voilà. Et pourquoi, d'ailleurs, c'est l'explication, c'est-à-dire que je ne la donne pas là, mais c'est un scoop sur l'antenne, c'est vrai. Pourquoi y a-t-il deux corps caverneux chez les humains? Ben, c'est à cause du baculum. C'est-à-dire que le baculum était entre ces deux corps caverneux. Sinon, si il y avait eu nécessité, si Dieu avait fabriqué le pénis directement, ben, il faisait un seul corps caverneux.
De toute façon, il n'avait pas de pénis, Dieu, donc il pouvait pas.
Ah, alors là, je viendrai une prochaine fois vous parler du pénis de Dieu. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les corps caverneux, dans le baculum, l'os pénien, était dans l'espace entre les deux corps caverneux. C'est pour ça qu'il y en a deux.
D'accord. Eh bien, voilà.
Voilà.
On a l'air d'être un peu plus intelligent.
Oh non, c'est une curiosité de la nature. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un os clitoridien. Ça existe, on le voit chez les femelles, mais c'est pas fonctionnel et on sait pas très bien pourquoi. On sait pas tout.
Non, on est loin de tout savoir. Et peut-être que c'est très bien d'ailleurs qu'il reste encore de tas de mystères. J'espère, sur la sexualité. Oui. En tout cas, Magdalena a une question à vous poser. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Magdalena, oui.
Oui, bonjour. Eh bien, d'abord, bonjour à Brigitte et merci pour toutes ces bonnes émissions très intéressantes. Alors, celle d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui m'a donné envie de poser une question sur est-ce qu'il y a une sorte d'hérédité de la sexualité, du comportement sexuel de chacun, par exemple, quand on est content de sa sexualité, comme c'est le cas pour moi, est-ce que je peux dire que je tiens de ma mère, de mon père, étant donné que c'est un sujet tabou dont on ne parle jamais en famille et dont on ne sait jamais rien, heureusement d'ailleurs, puisqu'on ne doit pas découvrir la sexualité de ses parents. Donc comment fait-on pour savoir cela, pour prendre conscience?
Eh bien, c'est très très intéressant votre question, parce que c'est tout c'est l'explication que l'on donne, et c'est ce pourquoi on a écrit ce livre. Parce qu'en fait, on s'est interrogé avec Pascal Pic, qui est paléanthropologue, qui s'occupe donc des fossiles, des hommes, des premiers hommes et puis des primates. On s'est interrogé, qu'est-ce qui est humain dans la sexualité? Eh bien, on va le voir, c'est que déjà, l'éducation sexuelle, c'est pas humain puisqu'on n'en fait pas.
Voilà.
C'est en grande partie toutes les religions qui ont amené les grandes religions et les grands monothéismes ont amené un interdit. Alors c'est très simple. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Eh bien, elles ont dit le sexe est naturel. Si on fait un micro-trottoir, on demande à tout le monde, bien sûr que c'est naturel. Eh bien non, le sexe n'est pas naturel, même chez les animaux, il est appris. C'est-à-dire même chez chimpanzés, qui a tous les gènes en commun avec nous, qui a les femelles ont des règles de 28 jours et une grossesse de 8 mois et demi, c'est pratiquement, on a un petit peu de différence au niveau du cerveau, mais enfin c'est pas très différent. Eh bien, on sépare un jeune
chez
singe.
Certains, c'est pas si différent que ça. Oui.
J'ai rencontré des singes qui sont plus humanisés que certains humains. Je suis d'accord, Brigitte. Eh bien, si on prend un jeune chimpanzé à la naissance, on le sépare des congénères, on le garde dans une cage, dans un zoo, on le remet à 4 ans, qui est la puberté. Eh bien, il est incapable, ce jeune singe, de s'accoupler, il ne pourra jamais. Il va essayer sur une fesse, sur une cuisse, très maladroitement. Alors, que font les autres? Eh bien, les autres ont appris par le modèle direct, c'est-à-dire qu'ils ont vu des copulations, ils ont appris des codes sociaux. Et la sexualité, c'est tout un... Chez nous, c'est encore plus complexe, c'est un apprentissage du corps, des réactions personnelles. Eh bien, dans l'émission, combien de fois on a dit la découverte par soi-même, par l'auto-érotisme, par la masturbation. Donc c'est par là qu'on va apprendre. Non pas par le modèle direct, puisque chez les humains, on ne voit pas le modèle direct, et c'est toute la difficulté. À ce moment-là, il faudrait qu'il y ait un discours. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit transmis. Alors, ce n'est pas héréditaire. Je suis entièrement.
C'est pas un héritage génétique, mais un héritage culturel.
C'est un héritage culturel. Et alors, qui n'est pas directement des parents.
Et
si.
Voilà.
Si,
et
vous pouvez le, si, ça va venir, héritage culturel, c'est-à-dire déjà. Alors ça, c'est des conseils d'éducation à la sexualité. Déjà, avec les enfants, répondez à toutes les questions. Ne jamais éluder une question. La deuxième chose, vous le disiez vous-même, ne jamais parler de votre sexualité, c'est-à-dire qu'on va pas dire, tu sais, quand papa et maman font l'amour, non, on va parler de façon, et là je parle à un petit enfant, on va dire de façon générale, même, moi je le conseille à des femmes qui ont des grandes difficultés. Eh bien, je dis, vous dites à votre enfant, tu sais, l'amour, c'est quelque chose de très beau, dans lequel un homme et une femme, puisqu'on parle de cela, se rejoignent et trouvent du bonheur ensemble. Je crois que ça ne bloque pas les portes. Voilà. Et puis, troisième règle, nous n'avons rien à savoir de la sexualité de nos enfants comme ils n'ont rien à savoir de la nôtre. Avec un petit conseil pour les parents qui ont des enfants petits, eh bien la chose très simple, c'est de fermer la porte de la chambre. Lorsque les enfants sont petits, alors je veux bien, dans la première année, certainement pas, ils ont besoin peut-être, mais dès qu'ils vont être un petit peu autonomes, il est important que cette porte soit fermée, même s'il ne s'y passe rien. C'est-à-dire qu'on leur apprend, pour rentrer, vous frappez. Ce qui veut dire que ils peuvent imaginer,
ils peuvent fantasmer sur ce qui se passe,
construire quelque chose. Papa et maman doivent faire quelque chose et là ils vont construire. Et s'ils rentrent, il y a des parents, je veux être très disponible. Sauf que papa et maman, ils font jamais l'amour, puisque je rentre, je sors, ça doit pas exister le sexe. Donc il y a des familles dans lesquelles on permet de penser que ça existe, et puis dans d'autres familles, effectivement, on a l'impression que ça n'existe pas.
Et voilà, vous avez posé la bonne question, Magdalena, et on vous en remercie. C'était...
Merci, Magdalena.
Parents, quoi.
Pardon ?
Comment, pardon ?
Je disais qu'en fait, ma sexualité existe un petit peu grâce au fait que je n'ai pas pu rentrer dans la chambre de mes parents.
Grâce au fait que vous avez imaginé qu'il se passait des choses dans la chambre de vos parents.
Oui, puis parce que vous l'avez construite vous-même, vous l'avez progressivement découverte. C'est ça qui est la clé de la sexualité humaine.
Merci beaucoup Magdalena, merci à vous. On se retrouve dans un instant avec la question croisée du jour. N'hésitez pas, vous aussi, vous voulez poser une question à Philippe Bonneau, dépêchez-vous. Il vous reste quelques minutes, 32-16 bien sûr, et on se retrouve dans un instant.
Brigitte Lahaie, La Haye, l'amour et vous.
Et nous avons cette question de Laurent pour vous, Philippe Bonneau. Est-ce que l'homosexualité existe réellement chez les animaux ? Ça, c'est une question, je dirais même que je ne l'ai pas posée tellement, elle est évidente quelqu'un allait la poser.
C'est pas aussi évident, oui, parce que
non, mais la
on
question
en a beaucoup
est évidente,
parlé
avec
Pascal Pic, avec qui j'ai écrit ce livre. Lui-même, en tant qu'anthropologue, au début, il m'amenait, mais il y a de l'homosexualité. Mais non, quand on en discute, quand on y réfléchit, nous ne connaissons rien qui soit ce que l'on appelle l'homosexualité dans l'espèce humaine, dans le monde animal. Par contre,
c'est plutôt des rapports de domination, en fait.
C'est-à-dire qu'on va voir des situations qui peuvent y laisser penser. Qui sont, par exemple, il y a les rites de soumission, par exemple, chez les primates. Lorsqu'un mâle est très en colère, un autre mâle peut très bien se mettre en position féminine, en position de réceptivité. Il fait mine de le monter, mais ça n'a rien à voir avec l'homosexualité. Par contre, il y a beaucoup d'exemples dans lesquels les populations, pour des raisons écologiques, vont être disproportionnées. Et par exemple, à un certain moment, il n'y a presque que des femelles dans la population. Eh bien, on voit ces femelles en chaleur s'exciter, se frotter les unes contre les autres. C'est exactement la même chose
dans un milieu carcéral.
En milieu carcéral, par exemple, les hommes vont peut-être faire l'amour ensemble et disent on n'est absolument pas homosexuel, sauf que on va avoir un partenaire de substitution. Et donc la réponse simple est celle-ci, on le développe bien avec Pascal dans ce livre sur le sexe et l'évolution, c'est il n'y a pas d'homosexualité animale au sens où nous l'entendons dans l'espèce humaine. C'est compliqué parce que, par exemple, les mouvements homosexuels revendiquent souvent cela, et il y a eu des films qui semblent la montrer, parce qu'on aimerait, pour des raisons idéologiques, mais penser que ça existe en milieu naturel.
Voilà, et c'est toujours la question de la subjectivité humaine. On a toujours tendance à voir les choses comme on aimerait qu'elles soient, mais on lutte pour plus d'ouverture dans cette émission.
RMC, Brigitte Lahaie, l'amour et vous.
Alors une question croisée, Philippe Bonneau, dans votre ouvrage « Le sexe, l'homme et l'évolution » que vous avez écrit avec Pascal Pic aux éditions Odile Jacob, vous parlez de la sexualité qui a longtemps été réprimée parce que justement ça permet de maîtriser et de contrôler les pulsions pour obtenir le pouvoir. Hein. Et donc on imagine bien que les politiques ont toujours essayé de contrôler la sexualité humaine. Alors ma question elle est simple, est-ce que ce désintérêt pour la politique aujourd'hui vient du fait qu'on ne contrôle plus nos pulsions sexuelles.
Et en plus, les politiques, en tout cas en France, affichent presque leur sexualité. On est dans un...
On la devine bien, en tout cas.
On la devine, ils la laissent deviner. Le désintérêt de la politique par rapport à la sexualité.
Voilà. C'est presque une question philosophique.
Mais je crois que c'est intéressant. Peut-être, alors à ce moment-là, il faudrait donner un conseil aux politiques. Alors soit, c'est presque, ça rejoint l'auditrice précédente. Moi, je crois que les politiques devraient être peut-être plus, plus discrets sur leur vie personnelle pour fermer la porte de la chambre et laisser entrevoir. Alors que très souvent, ils laissent. On a eu l'habitude en France justement que ça soit pas réprimé, et très bien pour l'orientation sexuelle, que des hommes politiques qui vivent leur homosexualité puissent en parler, ça je trouve ça extraordinaire. Par contre, il y en a d'autres qui laissent trop supposer peut-être leur vie personnelle, et peut-être qu'il y a de la discrétion, et que la politique c'est comme le sexe, il faut être discret, il faudrait qu'il soit plus, alors je vais dire ça, qu'il soit plus dans l'efficacité, dans la sexualité qu'en permanence dans la séduction. Ils essaient de nous séduire, et puis derrière on n'a rien du tout. D'ailleurs il manque, c'est des sortes de, est-ce que c'est pas des allumeurs les hommes politiques, voilà. Vous me mettez en...
Des séducteurs, ça c'est sûr.
C'est séducteur, mais...
Un peu hystérique.
On n'a pas grand-chose derrière, c'est-à-dire ce sont peut-être des allumeurs, voilà.
D'accord.
Je ne sais pas si c'est une réponse, c'est une question, oui, je ne suis pas très, très féru de la politique.
Mais du sexe, oui. En tout cas, vous me posez une question.
Oui. Ça va être pareil, parce que, regardez Brigitte, d'abord je me suis dit, je suis souvent venu à cette émission, avec grand plaisir, et je me dis, qu'est-ce que je peux encore lui poser comme question croisée. Et alors, tout à l'heure, elle a été dévoilée en partie ma question croisée, parce que je voulais poser cette question-là. On sait votre passion pour les chevaux, Brigitte, mais quelle est la taille du baculum de votre cheval?
Ah oui,
écoutez, de votre étalon.
J'ai pas des talons, c'est des hongres ou des juments, donc de
mais
toute
ça fait
façon.
Rien. Quelle est la taille du baculum de l'ospénien?
Je ne sais pas. En tout cas, la taille du pénis d'un cheval est assez imposante quand même. Malgré que ce soit un grand animal, c'est quand même une taille assez imposante.
Mais c'est difficile de dire la taille.
Du baculum, non. Alors comme ça, je vais me lancer parce qu'il faut bien que je dise une taille. Je dirais que ça doit faire peut-être dans les 15 cm.
Oh, Brigitte, c'est bien, c'est intéressant. Je crois qu'il fait près de 40 cm.
Ah oui, quand même, oui.
Il faut dire que le pénis humain, lui, en moyenne, en érection, fait 15 cm. Chez Rocco Siffredi, c'est 23 cm, et on a un record masculin qui est donné à 31 cm. Par contre, le baculum est un petit peu plus long que le pénis chez tous les mammifères.
Alors que
prend,
je pensais qu'au contraire, il était beaucoup plus petit.
Ouais. Ben non, parce qu'il prend à la racine du pubis, il prend complètement au fond, il doit y avoir 4 ou 5 cm qui sont à l'intérieur, et puis ensuite, il est à l'intérieur. Il doit faire 40 cm et le pénis en érection doit bien faire 30.
Mais alors, excusez-moi, mais ça intéresse peut-être pas les auditeurs, mais tant pis. Mais comment on peut expliquer à ce moment-là que la verge du cheval rentre complètement dans son étui, dans son fourreau, pour être plus précise, avec cet os de 40 cm
Oui, parce que le fourreau est extrêmement lent à l'intérieur et il n'y a pas de difficulté à cela. Et alors, ce qui est le plus extraordinaire, c'est, moi j'ai vu deux ou trois fois des ospéniens de mammouth, ça fait presque 81 mètres de long. Les ospéniens de baleines, si vous allez au jardin des plantes et au muséum, eh bien effectivement c'est quelque chose de monstrueux, ça fait je ne sais pas, un mètre et quelques, voilà, c'est impressionnant, mais en général dans le squelette, on ne sait pas ce que c'est et on ne le remarque pas alors qu'il est monstrueux.
Eh ben, il faudrait peut-être apprendre à le regarder un peu mieux, ça nous permettrait de... Enfin, je ne sais pas, parce qu'en même temps, ça ne fait pas rêver, hein,
un os pénien, vraiment non.
Justement, on parlait tout à l'heure de la sexualité des parents, c'est Isabelle qui voulait réagir tout de suite à ce sujet. Isabelle, bonjour.
Oui, bonjour Isabelle. Bonjour à votre invité. Oui, je réagis justement suite à la question de l'auditrice sur la sexualité parent-enfant. J'ai donc une fille de 15 ans qui est revenue il y a quelques week-ends, d'un week-end chez son père, où elle, qui a une nouvelle compagne, et qui est revenue très très choquée, de façon un peu démesurée, sur ce qu'elle a entendu venant de la chambre de son père, voilà, sur donc des ébats amoureux de son père et de sa compagne. Et elle est revenue, mais elle était tellement, elle qui n'est pas du tout ni bégueule, enfin elle a un amoureux, elle n'a pas eu de relation sexuelle encore, hein. Mais on parle facilement, et là j'ai senti que ça prenait des proportions. Elle dit qu'elle a eu très peur, de ce qu'elle entendait, qu'elle a téléphoné à ses copains ou une copine pour lui dire qu'elle avait peur. Enfin bon, elle a eu des boules de caisse, enfin bon. Et du coup, moi, je me retrouve avec ça, avec la difficulté de me positionner en tant que mère, puisque ça se passe chez le père, de me positionner par rapport à la sexualité. Je ne sais pas quoi lui dire.
Ben oui, c'est pas très facile. Hein. Et à la fois, ben, il faut comprendre. Hein, elle a 14 ans, je crois. Hein,
15 ans. Elle a 15 ans et elle est mature. Enfin bon, elle est.
Oui. À la fois, je disais, nous n'avons rien à savoir de la sexualité de nos enfants comme ils n'ont rien à savoir de la nôtre. C'est-à-dire que oui, on ne peut pas avoir des ébats érotiques et Dieu sait que on va prôner le fait que de se laisser aller dans les ébats érotiques, mais à ce moment-là, on le fait lorsque on est vraiment dans l'intimité. C'est très compliqué pour les adolescents parce que ça va être interprété. Ça, c'est quelque chose que j'ai très souvent entendu de femmes qui avaient vécu ça dans leur enfance. Je ne croyais pas qu'aujourd'hui ça soit forcément interprété comme ça. C'est-à-dire des filles jeunes qui, ne sachant pas du tout, interpréter ces cris comme des cris de souffrance.
Exactement, c'est ce que je ressens, moi. Hein. C'est ce que je ressens quand elle rapporte.
Voilà,
c'est-à-dire qu'elle revient en souffrant, avec des mémoires, comme si c'était une mémoire effectivement de violence. Oui. Et de dégoût, parce que du coup, ça déclenche le dégoût.
Alors, c'est compliqué parce que souvent, lorsque c'est avec la mère. Moi, j'ai beaucoup de témoignages qui étaient comme ça. Je supportais pas l'idée de ma mère. Je sentais qu'il criait et sous les coups de mon père. C'était à peu près ça. J'exagère. Là, c'est un peu compliqué parce que c'est pas sa mère. C'est la compagne ou la partenaire de son père. C'est plus difficile dans les représentations parce que qu'est-ce qu'elle est par rapport à vous? Comment elle va s'identifier par rapport à vous? Si elle s'identifie beaucoup, eh bien, à ce moment-là, c'est quelque chose de douloureux, presque comme une jalousie. Qu'est-ce que c'est que cette femme qui fait l'amour avec, si elle se projette à travers vous, mon ancien compagnon. Là, il y a quelque chose de difficile. Il faudrait qu'elle puisse en parler parce que ça serait mieux qu'elle moi, je conseillerais deux choses. Elle est pas bien. Il faudrait qu'elle puisse en parler avec soit un psychothérapeute.
Elle a un thérapeute. Alors ma question c'est est-ce que je peux parler de ça moi à son thérapeute?
Alors oui parce que
en tant qu'intermédiaire,
le problème compliqué c'est qu'il y a deux types de thérapeutes. Il y en a qui écoutent, l'écoute bienveillance lorsqu'il s'agit de sexualité et de choses comme ça et dès qu'il y a des souffrances réellement c'est pas indiqué.
Parce que
à ce moment-là mais je ne sais pas ça dépendra des il y a des gens à ce moment-là si c'est simplement écouter là à ce moment-là c'est violent parce qu'il y a pas de réponse. Il faudrait quelqu'un qui soit très pédagogique qui explique bien là beaucoup de thérapeutes ne connaissent pas la sexualité, donc n'osent pas en parler. Si elle n'est pas à l'aise avec ça, il faut qu'elle rencontre quelqu'un, même si elle fait sa thérapie, qu'elle rencontre quelqu'un deux ou trois fois, il n'y a pas besoin de beaucoup, ou même un sexologue qui connaît bien, qui va dédramatiser les choses. Mais il faut d'abord voir avec son thérapeute et que vous lui en parliez.
D'accord.
Et la deuxième chose, c'est il faut parler à votre ex-mari, c'est d'ailleurs à son père, en lui disant « Écoute, je suis embêté », sans le culpabiliser, parce qu'autrement vous allez réactiver peut-être des choses compliquées. Notre fille est revenue, elle a mal vécu des choses qu'elle a pu entendre. Ça serait important qu'elle ne soit plus dans une telle situation. Il faut lui en parler et
D'accord.
il faut qu'il y fasse très attention. Voilà,
D'accord.
c'est les deux conseils qu'on peut vous donner, mais
Merci.
C'est quelque chose qui n'est pas très facile.
Et puis, on peut peut-être rappeler Isabelle, parce que ça, c'est parfois facile de faire cette sorte de parallèle avec la sexualité animale qui parfois paraît violente et qui pourtant est tout à fait naturelle. Ça peut peut-être être un angle. Là, vous parlez pas de sexualité humaine.
Oui, vous pouvez lui dire de quelle façon la sexualité, ce qu'elle a entendu, c'était certainement. Bon, elle aurait. Vous lui dites, ça aurait été mieux que t'entendes pas parce que tu étais pas préparé de dire des choses comme ça. Vous ne parlez jamais en parlant de son père ni de vous. Vous dites c'est la sexualité normale. Eh bien effectivement on se laisse aller et en tout cas c'est pas des choses négatives. C'était certainement quelque chose de l'ordre du plaisir, mais c'est compliqué même de dire ça, voyez, parce qu'il s'agit de son père et c'est un peu incestuel.
Merci Isabelle de votre appel. Merci Philippe Bruneau. Le sexe, l'homme et l'évolution, c'est aux éditions Odile Jacob. Un livre où on apprend plein de choses. Un livre formidable. Merci.
Ah, merci.
Et puis demain, on sera en compagnie de Laurent Carilla et on parlera des addictions sexuelles à tout niveau. Vous n'hésitez pas à réagir dès à présent. Et tout de suite, vous êtes avec Louise Fernandez pour Louise s'attaque. Je vous embrasse. À demain.